Et oui, c'est le générique de Vendredi Théâtre. Il s'agit d'un extrait de Prokofiev, Roméo et Juliette avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, l'actualité du théâtre. Toutes les semaines sur Divergence FM, nous avons 60 minutes pour parler de cette actualité. Je suis avec la belle Grazia. Bonjour Grazia. Et je suis avec l'inénarrable Tito Livio et nous allons parler d'un spectacle qui s'appelle Un obus dans le cœur qui est au 13 vents et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Guillaume Sévrac-Schmitz. Bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom.
Non, pas du tout, c'est très bien.
Alors moi je n'ai pas vu le spectacle mais nous avons deux chroniqueurs qui l'ont vu. Il faut savoir que c'est dans la petite salle des 13 vents, donc c'est une jauge à peu près à 100 personnes, donc il y a peu de place. Mais nous avons Grazia et Tito qui ont vu le spectacle. Donc c'est vous qui allez travailler ce matin. Grazia, tu veux commencer ?
Oui, donc cette pièce est en fait une adaptation pour la jeunesse d'un roman qui s'appelle « Visage retrouvé ». Alors c'est l'histoire donc de Wahad qui, au milieu de la nuit, est réveillé par un coup de fil et il est appelé au chevet de sa mère. Et à partir de là, il se met en route toute une série d'émotions, de sentiments, d'affectivité. Et il y a comme une sorte de crescendo. Au début, il faut dire que c'est un monologue, hein, excusez-moi, oui. C'est ça, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais c'est très important parce que c'est l'acteur est seul sur scène et il faut une sacrée énergie pour jouer ce texte seul sur scène. On a vraiment l'impression que le texte pénètre l'acteur, c'est absolument incroyable, c'est bouleversant, Moi, ça m'a ébranlé, c'est le cas de le dire. J'étais fascinée, je n'ai pas perdu un mot. Et donc, voilà, je parlais d'un crescendo parce qu'au début, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même des pauses, des moments de silence, de réflexion. Le comédien qui tourne autour du plateau, on ne sait pas trop si c'est pour réfléchir, si c'est pour se concentrer ou si c'est parce que le fait de marcher en carré comme ça autour du plateau lui rappelle une sorte de prison qui serait le Québec à l'occurrence, parce qu'il faut connaître l'histoire de l'auteur qui est donc, je le répète, Wajdi Mouawad.
Ouais, je précise juste un petit peu, c'est Wajdi.
Wajdi.
Mouawad.
Oui, oui, mais moi j'écorche tout.
Je ne me suis pas risqué à le prononcer, moi.
Alors vous n'êtes pas la seule
à l'écorcher, je suis désolée.
À l'écorcher, notamment. Donc je me permets de le...
Voilà, qui est un exil au Québec. Voilà, donc il est appelé et après, petit à petit, il arrive à l'hôpital et là, il rencontre sa famille et il y a tout un crescendo de paroles, mais aussi de couleurs, de musique. C'est absolument bouleversant, quoi. Donc, je pense que Guillaume Sévrac-Schmitz
on va y arriver.
Pourra nous en parler mieux parce que, bon, bah, c'est lui qui a joué la pièce et quelle énergie. Vous êtes absolument magistral.
Merci beaucoup. Merci.
Tito.
Ben, j'attendais qu'il dise quelque chose. Parce que c'est difficile de... Alors, moi, j'ai évidemment, j'ai le même sentiment que Grazia. Moi, j'ai adoré la pièce et j'ai adoré votre jeu. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, c'est toujours très difficile de parler des choses qu'on aime. Donc, c'est plus facile de critiquer. Moi, c'est intéressant parce que c'est dit que c'est quelque chose pour la jeunesse. Mais en fait, moi, j'ai 10 ans de plus que l'auteur. Et je ne sais pas si c'est autobiographique, mais admettons que c'est autobiographique à ce moment-là. Et moi, avec ma maman de 80 ans qui ne va pas très bien, je me suis trouvé tout à fait dans la pièce quand même. Mmh. Alors, peut-être parce que j'ai une famille comme ça aussi. Hein, j'ai envie de les baffer tous en même temps et par paquets. Et donc, je ne sais pas si je n'aurai pas une tante qui crie « Tu es belle, t'es belle ». C'est pas le genre, mais bon. et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une pièce pour la jeunesse. Parce que c'est... il faut avoir cette expérience, soit de la perte de sa mère jeune, ou soit de l'avoir vieille, comme les miennes, et de penser, moi j'ai pensé pendant la pièce, quelle chance j'ai finalement d'avoir profité aussi longtemps de ma maman, quand même. Et donc, bon, je suis en train de tomber vraiment dans la niaiserie, c'est affreux ce que je raconte. Et voilà, à part ça, j'ai trouvé, c'est vous qui avez choisi les musiques.
Oui, en partie, il y a des musiques additionnelles. Et puis après, il y a des musiques que j'ai composées moi-même pour le spectacle.
Lesquelles ? Ça m'intéresse.
La toute première, au tout début du spectacle. La toute dernière, à la fin, lorsqu'il se met à peindre. Et il y a la musique sur laquelle il marche beaucoup dans la rue, sur laquelle il parle dessus. C'est une musique... à la guitare, une guitare acoustique, électroacoustique, et puis après tout ce qui est son de la ville, etc., qui est une juxtaposition sonore, voilà, d'ambiance de ville, pas très compliqué à faire, et que j'ai fait aussi avec mes collaborateurs au son. Voilà. Après, les autres sont des musiques additionnelles, soit du chant sacré, soit Rage Against the Machine que vous avez pu entendre. Puisque je trouvais que ce groupe-là correspondait vraiment à ce que moi je me rappelais de mon adolescence et de ce que j'écoutais pendant mon adolescence. Donc je me suis permis de mettre ce groupe-là. Et puis après, c'est des chants sacrés parce que je suis passionné de musique sacrée. Donc voilà.
Mais c'était très bienvenu. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il m'intéressait de savoir quels étaient les morceaux. Bon, les gens qui iront voir la pièce après, ils apprécieront, parce que la musique, on ne peut pas raconter la musique. Donc moi, celle-là, c'était une question presque personnelle. Ça m'intéressait de voir quelles étaient les parties que vous aviez composées. Moi, j'aime beaucoup les choses qui se font actuellement. J'ai eu la chance d'avoir des jeunes collègues il y a une quinzaine d'années qui m'ont un peu fait comprendre ce qui se passe. Et donc, j'ai échappé à être un vieux con grâce à ça. Et donc, j'aime bien ce que vous faites. Donc, pour la musique aussi, je trouve ça très intéressant. Il y a une chose très intéressante dans la pièce aussi, c'est que c'est pas un récit où on raconte juste une histoire. On entre dans l'histoire et on entre dans les sentiments de la personne. Ouais. Et ça, c'est difficile à faire. Hein.
Oui.
C'est très difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est quelque chose qu'on vit et on entre dans ce vécu avec vous. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, le spectacle, comme vous l'avez dit, Grazia, c'est l'histoire d'un garçon que son frère appelle au téléphone pendant la nuit pour lui dire que sa mère est en train de mourir à l'hôpital et que donc il faut qu'il s'y rende. Et c'est comme un chemin initiatique. Cette démarche de son appartement jusqu'à l'hôpital, c'est comme un petit road movie, très très resserré comme ça. Mais ce road movie s'ouvre sur des paraboles, des hyperboles, des flashbacks sur lesquels... grâce auxquelles on revient sur certaines étapes de sa vie très importantes qui font comprendre au spectateur la raison pour laquelle Wahab est si en colère contre la mort de sa mère, contre sa mère elle-même, contre sa famille, et à quel point il est un adolescent dans toute sa splendeur, c'est-à-dire extrêmement pressé, extrêmement impatient, extrêmement bouleversé par... le fait qu'il il faille absolument trouver un sens à sa vie. Et donc, c'est moi ce qui m'a vraiment, d'un point de vue au début, beaucoup, beaucoup, beaucoup touché dans l'écriture de Wajdi Mouawad. Je connaissais déjà pas mal son écriture pour avoir lu ses romans, pour avoir lu ses pièces de théâtre et pour être un de ses acteurs lorsqu'il monte ses spectacles, puisque j'ai participé avant de jouer donc Wahab à deux spectacles qu'il a montés, qu'il a écrits, qui s'appellent Littoral, Forêt, et puis après nous avons joué Le Sang des Promesses, qui était donc une trilogie. Donc l'écriture de Wajdi, je la connais bien, je la saisis plutôt bien, je pense, puisque j'ai été au contact de cette personne-là, qui est une personne très très importante pour moi. Et vous parliez de l'énergie. Vous parliez de comment on arrive à retransmettre ses émotions. C'est un don, comme c'est un solo, c'est un don absolu. C'est une plongée sans filet vers un monde des émotions, parce que Wajdi n'y va jamais vraiment qu'à moitié. C'est quelqu'un qui est entier dans sa démarche. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse énormément, parce que on ne peut pas raconter l'horreur sans y plonger véritablement, sans se mettre soit à la place, soit se mettre dans une position d'imagination. On ne peut pas raconter une histoire qui est si forte sans avoir soi-même quelque chose en nous qui nous contraint, voire qui nous permet, presque comme dans un geste salutaire, de rentrer dans cette langue-là. Je pense que je l'expliquais à quelqu'un, je ne sais plus quand, c'était la semaine dernière. Je dis très simplement que pour jouer ce genre de texte-là, au-delà du fait qu'il y a évidemment toute une panel technique de l'acteur, etc., mais qui est assez secondaire à mon sens, même s'il faut avoir cette soupape-là, la vraie question, c'est la question de la nécessité de dire. C'est qu'est-ce qui fait qu'en nous, nous avons envie de dire des choses qui nous touchent. Et voilà, moi, la démarche que j'ai faite, c'est qu'il y avait certaines choses qui, moi, me touchaient dans le texte et qui faisaient écho avec ma vie personnelle, mais à d'autres endroits, vraiment. À d'autres endroits qui sont mes endroits à moi, à des endroits d'intimité. Mais c'est précisément cette nécessité-là qui naît, cet ébranlement en soi que naît le besoin de dire ce texte-là.
Mais c'est ce que l'auteur recherche aussi.
Tout à fait. Je pense à des endroits. Il est vous avez bien vu le texte, puis je suis très heureux de tout ce que vous dites sur lui. C'est un texte vraiment bouleversant. Et moi, je dis, c'est un auteur qui fait pas de concessions avec ça. C'est quelqu'un qui parle, il le dit lui-même. Moi, je le paraphrase sur ça. C'est quelqu'un qui parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas non plus s'exprimer. Et donc, c'est en ce sens que je trouve que son écriture est magnifique. Elle est extrêmement poétique. Elle n'est pas seulement triviale. Ou simple comme ça, machin. Derrière ça, il y a une poésie extraordinaire, il y a un chant, un lyrisme, un sens de l'épique, de l'antique et de la tragédie moderne qui est extraordinaire. Voilà, moi je suis vraiment j'adore son travail.
En plus, c'est une histoire qui... parce qu'il ne perd pas sa mère, là. Il l'a perdue à 14 ans, en fait, quelque part, oui. Puisque ce n'est plus la maman de son enfance
qui
est là.
Il raconte.
Et donc, c'est difficile. C'était difficile à ramener ça sans décrire, sans faire des détails.
Oui,
on comprend par l'ensemble.
Ce don, à mon sens, de l'écriture, de pouvoir, là, comment dire, trouver le point très précis d'ébranlement ou de schisme entre l'enfance et le passage à l'âge adulte. Et donc, dans ce schisme, il trouve un événement qu'il va traiter vraiment au scalpel, au couteau, pour qu'ensuite naissent justement l'émotion de cet endroit-là. Et Wahab, lui, à 14 ans, s'aperçoit un jour en rentrant chez lui que dans l'appartement familial, il voit son père, sa mère, sa sœur, et puis il voit une personne qui passe devant lui et il ne la reconnaît pas. Il se dit « Mais qui est cette femme ?» Et puis son père lui dit « Mais enfin, c'est maman. C'est maman. » Puis il dit « Mais non, c'est pas maman, elle n'a pas le même visage. » Il comprend. Évidemment que c'est sa mère, mais il comprend avant tout le monde, avant son père, sa mère, son frère et sa sœur, pardon, pas sa mère, puisque sa mère le sait, il comprend avant, il a comme un oracle qui dit « Maman est malade, il y a quelque chose qui va se passer, quelqu'un va mourir, quelqu'un va être sacrifié, il y a quelque chose, mais personne ne le croit. Personne ne croit, parce que personne ne croit quelque part au cri de cette jeunesse qui a des idées, hein, si on peut extrapoler, qui croit en sa chance, qui croit en tout ça. Mais souvent, on dit, non, mais reste dans ton coin. On l'emmène voir un médecin, justement. On lui dit, mais va expliquer ça à quelqu'un qui lui-même ne comprend pas. Le monde des adultes ne semble pas comprendre le monde de la jeunesse à travers ça. Donc, il voit que sa mère a un visage différent. Il ne comprend pas. Personne ne comprend, sauf lui. Donc, il se met à peindre, à tenter d'essayer de retrouver le visage de sa mère par le biais de la peinture. Et cet aspect-là est extrêmement important dans le spectacle, car c'est du déchirement et de cette nécessité, comme je vous racontais par rapport à moi, de raconter ce texte, une nécessité pour Waham, tout d'un coup, de faire un acte artistique et pour pouvoir retrouver et retrouver le visage de sa mère et redonner du sens à sa vie, ou du moins lui donner un peu de sens. Donc au début, il ne sait pas trop comment le faire, puisqu'il n'a aucune manière de comprendre, ou il n'a aucune technique de peinture, etc. Mais ce qu'il y a d'une manière sous-jacente et très très importante dans le spectacle, et c'est qu'on assiste véritablement à la naissance d'un artiste. D'où naît la nécessité de poser un acte artistique, quel qu'il soit. Il semblerait là qu'il naisse du déchirement, du deuil, de la perte, etc. Et ma foi, moi, ça ne me dérange pas, je trouve ça plutôt beau. Chacun est artiste à sa manière, à l'endroit où il le veut. Hein. Mais là, dans ce texte, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de raconter à quel point être un artiste n'est pas une chose qui s'improvise. Et ça, donc, moi-même, me remet toujours en question par rapport à mon art de faire du théâtre et après de la musique. Ça me remet toujours en question par rapport à ça. D'où naît ma nécessité? Ou est-ce que tout ça... Est-ce que parce que moi, j'ai un ébranlement qui est moins fort, par exemple, que le personnage dans le spectacle, hein, est-ce que c'est parce que mon ébranlement est moins fort alors que mon geste artistique va l'être d'autant moins? Je ne sais pas. Je me pose ces questions-là. Pourtant, on a tous en nous voilà, ce besoin de faire, de créer en tant qu'acteur, hein, etc., ou artiste en général. Donc, il me semblait important aussi de relever cette chose-là, cet aspect-là du spectacle, qui est très, très important. Parce que c'est ça qui le sauve, en fait. Quand il a 14 ans et qu'il décide de dessiner le visage de sa mère pour essayer de ne pas oublier le visage dont il se souvient et qu'il ne reconnaît plus, eh bien, il fait un acte de survie. Il fait un acte de survie et grâce à ça, il peut sortir de toutes les histoires assez désastreuses qui l'entourent. Voilà.
Il y a un truc intéressant, c'est vraiment une peinture qui fait un direct. Là.
C'est lui qui peint.
Et il y aurait énormément de choses à dire, et c'est intéressant que vous parliez de la question d'être artiste ou pas. Parce que moi, je suis persuadé que le mouvement pop art a complètement tort. Tout le monde n'est pas artiste. C'est absolument fou. Mm-hmm. et je le sais, ne serait-ce que pour moi-même. Alors, je serais peut-être le seul qui n'est pas artiste. Alors. Parce que je suis persuadé. Et c'est intéressant qu'il y a... C'est pas du Pollock ce qu'il fait, mais il y a quelque chose d'avant ça aussi dans sa peinture. Mm-hmm. Hein, d'avant les années 60. Ouais. Et en même temps, c'est extrêmement moderne.
Oui, oui, oui.
Tout en étant très moderne. Et ça, c'est intéressant. Je crois que rien n'est par hasard.
Oui.
Rien n'est par hasard. Et la démarche, déjà, moi, je trouve son écriture extrêmement américaine, dans le bon sens du terme.
Oui, oui.
Parce qu'elle est violente, elle est profonde. Il y a des envolées lyriques à la... quand même, les Américains, ouais. Même dans les plus petites choses qu'ils font, des fois, il y a des phrases comme ouais. ça, on se dit, oh, mon Dieu, ouais. Même dans une série télé ou quelque chose, c'est tout vrai. D'un coup, c'est il y a une phrase et on se dit, dis donc, une zone d'écriture.
Je pense que son écriture, oui, elle a quelque chose d'assez anglo-saxon,
oui.
dans le bon sens du thème, comme vous dites. Alors, je ne sais pas, il est quand même très méditerranéen, parce qu'il parle beaucoup. C'est un acteur foisonnant, qui dit beaucoup, qui parle, qui énonce et qui nomme énormément les choses. Donc, ça sous-entend, après, quand on joue ces textes, d'en prendre vraiment compte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mots qu'il faut les dire d'une manière très vivante, très vitale, hein, sans jamais aucune psychologie. En étant extrêmement rapide dans le débit et techniquement assez, je dirais, ça demande une forme de virtuosité, hein, quelque part, L'écriture elle-même, hein, je parle. Après, la manière dont on s'en empare, bon, il faudrait être aussi virtuose, ça ne marche pas tout le temps. Mais voilà, mais c'est vrai que son écriture, il y a, de par son origine, donc le Liban, et après son exil et le fait qu'il ait vécu beaucoup au Québec, il y a cette empreinte-là avec les codes du scénario. Puisque moi, quand j'ai travaillé Un obus dans le cœur avec mon collaborateur, Thibaut Pernoud, il m'a dit un jour une chose très juste. Il m'a dit, tu es un... Il semblerait que tu sois un réalisateur. Et que donc, comme tu expliques toute ton histoire au public d'une manière frontale, il faut que tu leur montres tout. Et donc ça, moi, je l'avais saisi aussi, mais lui, il a vraiment trouvé ce mot-là du réalisateur. Donc c'est vrai que j'explique, voilà, beaucoup exactement où est-ce que je me trouve, où est-ce que Voam se trouve au moment où le coup de téléphone le réveille, qu'il part dans la rue, qu'il tout d'un coup monte dans un autobus, que ça se passe mal avec le chauffeur, puis qu'il descend de l'autobus, puis qu'il remarche dans la rue, puis que, voilà, il rencontre plein de personnages. Il y a des choses que j'ai enlevées, moi, pour accélérer le récit, comme le passage avec un Père Noël, un type qui sort de l'hôpital pour faire une forme de... Voilà, il venait sûrement de faire une animation dans l'hôpital. Voilà, donc il tombe sur ce Père Noël et il y avait cette image, voilà, du Père Noël, mais je l'ai enlevé. Mais voilà, il fallait être extrêmement précis dans la manière de raconter et pas simplement d'expliquer. Parce que le problème, c'est qu'on peut expliquer. Et au théâtre, quand on explique, on est vraiment très, très. On n'est pas très intéressant, en fait. Il vaut mieux traverser qu'expliquer. Il faut penser plutôt que. Voilà, plutôt que tomber dans l'explication un peu stérile, un peu, voilà, alors on dirait, oui, c'est pas mal, tout le monde suit, mais personne ne traverse avec vous si vous expliquez.
Mais là, c'est pas le cas. Hein.
Merci. Merci. J'ai beaucoup travaillé pour que ça ne soit j'imagine. Pas explicatif.
Mais l'importance du texte est fondamentale pour lui, oui. Hein, pour l'auteur. Il disait dans une interview qu'il avait proposé à deux acteurs. Je crois que c'est un samedi, le nom de la pièce.
Oui, hein. Oui, oui.
Voilà, qu'il avait proposé de jouer dans un ascenseur.
Oui.
Vous vous souvenez
mais,
de ça?
Oui, mais peut-être, mais ça ne m'étonne pas.
Ouais. Donc il disait, nous devons être à mesure de faire en sorte que les gens nous écoutent.
Oui.
Donc le décor, peu importe.
Oui, oui. Le décor n'a pas vraiment d'importance.
N'a pas d'importance,
non, non.
Ouais.
Non.
On va rappeler, puisque je vois que l'heure tourne, que la pièce s'appelle... Un obus dans le cœur, c'est au 13 vents, c'est dans la petite salle, c'est une création. 13 vents. Oui, Gradia ?
Oui, je voudrais dire que cette pièce va tourner encore longtemps, hein,
ouais,
dans les
petite...
maisons pour tous.
Dans l'agglomération.
L'agglomération.
Ah, génial. Oui.
Et voilà, donc vous ne pouvez pas ne pas la louper, ça va aller à Colucci, à Brassens, à Jean Monnet, à Luravaz et à Chanson, et même à Marcel Pagnol. C'est absolument magnifique. C'est quelque chose qui va tout droit au cœur. Et il faut y aller. Allez-y, c'est très beau.
Bon, merci.
Et ce soir et demain, c'est au 13 vents, donc à 19h, dans la petite salle. Donc c'est une petite jauge. Et je ne sais pas s'il reste encore des places.
Mais il faut se dépêcher toujours, là.
On trouve toujours.
Bon,
on trouve
oui,
toujours.
Il y aura des files d'attente peut-être.
Merci Guillaume de nous avoir accompagnés
merci
pour ce
vous.
Premier
merci
plateau.
Beaucoup.
Et on va se quitter, faire une petite pause avec un Stabat Mater, le Stabat Mater de Pergolesi.
Thank you.
Et oui, c'était un petit extrait de Pergolesi, le Stabat Mater. Vous êtes bien sur Vendredi Théâtre, sur Divergence FM. Vendredi Théâtre, l'émission qui explore l'actualité théâtrale sur Montpellier. Alors, il y a beaucoup de monde qui s'est installé dans le studio d'un seul coup. On va parler de la Vista, du théâtre de la Vista. Il y a Marie Lalle qui vient de nous rejoindre. Bonjour Marie.
Bonjour.
Mais ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas eu à l'antenne.
Ça fait trop longtemps.
Voilà, donc Marie qui s'occupe le plus particulièrement pour Vendredi Théâtre des spectacles pour enfants. Tu n'es pas venue avec Timothée?
Non.
Alors, je disais le théâtre La Vista, j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Lise Sinou, bonjour.
Bonjour.
Qui est directrice donc de La Vista. Je reçois Luc Miglietta, bonjour.
Bonjour.
On vous reçoit très régulièrement, décidément, sur Vendredi Théâtre.
Chaque année,
pour chaque spectacle.
Chaque nouvelle actualité, vous êtes très fidèles, et nous aussi.
C'est ce qui nous caractérise. Et nous avons également deux invités. Je n'ai pas noté les noms, mais je vais les laisser se présenter.
Bonjour, moi c'est Juliette Peytavin de la Nivatiep Company.
Bonjour, moi c'est Estelle Sabatier de la compagnie Bruit qui court.
Et j'ai oublié de préciser que je suis toujours avec Christopher. Christopher qui était avec moi pour voir le spectacle hier.
Bonjour.
Bonjour Christopher. Alors, on va parler de La Vista, on va parler de l'actualité de La Vista avec ce spectacle qui se déroule maintenant, cabaret numéro 1. Cabaret numéro 1, ça veut dire qu'il y aura d'autres cabarets.
Il y en aura 4, exactement.
Il y en aura 4. Alors, on vous reçoit aujourd'hui plus particulièrement parce qu'il y a une actualité. On a eu quelques articles dans les journaux à propos de La Vista. A priori, il va y avoir des changements, des modifications à venir.
Oui, il y a eu un article dans le Midi Libre dont le titre était totalement inexact.
Moi,
dernière saison pour la Vista, il y a eu un très bon article dans l'Héros du jour, oui. Qui parlait de la problématique d'une façon très très concrète de la Vista, qui est celle d'un petit théâtre déjà, qui chaque année vit de briques et de broc, mais qui tient le cap depuis 14 ans, puisque
14
c'est
ans,
notre
oui.
14e saison. Toujours dans le quartier, aux confins des quartiers Gély-Figuerolles. La Vista a plusieurs problématiques, hein, celle d'un contrat moral de la part des institutionnels qui sont quatre à nous suivre. Hein. Il y a la DRAC, il y a la ville, il y a le département, il y a la région. C'est rare qu'un petit lieu comme ça, qui est un théâtre privé, somme toute, puisqu'on est une association, puisse faire l'unanimité auprès de quatre institutionnels qui ne travaillent pas toujours ensemble. Par contre, il avait une sorte d'engagement moral jusqu'en 2014 de nous suivre. Donc cet engagement moral a été maintenu. D'autre part, les subventions sont les mêmes depuis 4 ou 5 ans, alors qu'il y a beaucoup de choses, comme tout le monde le sait, qui ont augmenté, qu'on a quand même pérennisé quelques postes à la Vista. C'est très important pour moi de m'entourer d'une équipe fidèle, comme aussi fidèle que les compagnies qui viennent chaque année. C'est le reflet de... On a professionnalisé une équipe, on a créé un lieu, professionnalisé une équipe. Et puis, on est un petit peu tous dans la cour. Il n'y a pas que la Vista, il y a la cour Vergne qui englobe, comme vous le savez...
On va peut-être revenir un peu sur l'historique du lieu.
Oui, alors l'historique du lieu, je ne sais pas à quand il remonte. Nous, la Vista, on s'est créé en 2000. Et quand on est arrivé là, il y avait un ancien théâtre qui n'avait pas fonctionné. Il y avait déjà la rampe. Et je pense qu'il y avait l'ARDEC. L'ARDEC étant une association de gestion d'entreprises culturelles, de comptabilité, de gestion, de formation. Il y avait la rampe, qui est le théâtre international occitan. Et je pense qu'il y avait, nous en 2000. Après, il y a plein de petites structures qui se sont créées. Le théâtre en flamme, la compagnie Minibus. Il y a un endroit voué à la peinture, les arts de la Méditerranée. Je vais essayer d'oublier personne. Et puis, surtout, après, il y a eu la friche de Mimi qui est constituée d'une dizaine de compagnies.
Oui,
Luc,
dizaine.
Tu peux nous préciser
de structures, oui.
Ouais.
Oui, on a... par l'intermédiaire évidemment de la Vista finalement, puisque les compagnies qui étaient programmées à la Vista il y a 7-8 ans se sont réunies à un moment à l'initiative d'une personne, je pense que c'était Valéria Emmanuel des Têtes de Bois.
Tout à fait.
Car il y avait un hangar qui se libérait. Et donc l'idée, c'était de récupérer cet hangar et de partager cet hangar pour y installer des compagnies. Donc il y a des structures, des compagnies de théâtre, des compagnies de danse, compagnies de vidéo. Il y a aussi des structures associatives qui s'occupent administrativement des entreprises culturelles. Voilà, sur la friche de Mémy, on est 13-14 structures.
Et à l'origine, ce lieu était un entrepôt de vente de bois qui appartenait à Mimi Vergne. Qui a facilité notre installation.
Le lieu appartient toujours à cette dame.
Il appartient toujours à cette dame qui a 92 ans. Et donc, voilà, on est assujetti un petit peu à sa bonne santé. Je lui souhaite longue vie parce que c'est bien de l'avoir à nos côtés, à nos côtés. Et puis, de toute façon, il y a 4800 mètres carrés constructibles. Il y a des promoteurs qui attendent que ce lieu soit... Qui ont les dents longues ou pas longues, je ne sais pas qu'en penser. Le fait est que les enfants verts ne pourront pas laisser ce lieu, garder le lieu comme ça. Ils vont avoir des droits de succession énormes. Je pense que la ville prend en considération ce lieu. Mais il y aura de toute façon une partie habitation, d'après ce qu'ils disent actuellement. Le plan est déjà un petit peu défini. Et il y aura une partie habitation, une partie espace culturel, mais ce qui est sûr, c'est que sous sa forme actuelle, le lieu ne pourra plus exister. Il faudra démolir et reconstruire. La Vista, qui vient de passer brillamment sa commission de sécurité, et qui est valable pour 5 ans, et qui est tout à fait aux normes, ce genre de lieu, même la commission de sécurité nous l'en dit, ne pourra plus exister sous cette forme-là. Je ne sais pas quelle modalité de construction il faudra, mais je sais qu'il faudra changer les choses. Voilà, donc de toute façon, écoutez, ça fait 14 ans qu'on existe, et puis c'est un métier où on n'est pas fait pour être définitivement en place. On est tous nomades dans notre esprit, on profite chaque année de ce qui se passe, et moi c'est dans cet esprit-là que j'ai pu chaque année reconduire ma programmation. On est là, on est bien là, on se régale d'être là, et cette année particulièrement.
Ça fait 14 ans que vous étiez directrice. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Montpellier, c'était en 2002, c'est l'un des premiers théâtres que j'ai visité.
Oui, je m'en souviens.
Et c'est vrai qu'il y a un accueil à la Vista qui est tout à fait extraordinaire. Je pense que Christopher dira la même chose que moi.
Moi, je ne peux que partager l'avis de Florent. Parce que c'est un des premiers théâtres que j'ai connu à Montpellier. Le hasard a fait, en arrivant il y a presque 10 ans à Montpellier, que j'habitais rue Adam de Craponne. Donc je n'avais pas beaucoup de mètres à parcourir pour aller à ce théâtre. Et j'ai vu mes premières pièces de théâtre à Montpellier au théâtre La Vista. Et j'ai une affection particulière pour ce théâtre dont l'avenir me préoccupe énormément.
Oui, je sais que moi j'étais très imprégnée des théâtres dans les pays de la Méditerranée où il y a une mixité artistique, une mixité sociale. Et il s'est trouvé qu'arrivant dans ce quartier-là, sur une ville que je ne connaissais pas trop, c'est un petit peu la situation, je le dis toujours, géopolitique de la Vista qui en a fait le projet, qui en a consolidé le projet artistique. On était dans un quartier de pluriculturalité méditerranéenne. Je rencontrais des compagnies qui avaient l'art de mélanger la marionnette, le texte d'auteur, la danse, le clown, tout ce que j'aimais. Et je les ai rencontrés sur ma route. Et c'est pour ça qu'ils ont consolidé ce projet-là de cette façon-là.
Et c'est vrai aussi, et là je me tourne vers Marie, c'est que pour les spectacles pour enfants, La Vista, c'est parmi le meilleur spectacle qu'on peut voir pour enfants, c'est à La Vista.
Bah, je trouve que c'est la référence à Montpellier. C'est le lieu où il y a la meilleure programmation de spectacles jeunes publics. Et puis, pour revenir un peu sur le théâtre, c'est plus qu'un lieu où on peut voir des spectacles vivants. C'est un lieu de convivialité. C'est un lieu où on se rencontre entre parents, où les enfants se rencontrent, où on prend des goûters, où on discute avec les artistes aussi. Donc, c'est vraiment un lieu exceptionnel en ce qui concerne le spectacle jeune public, c'est évident.
Oui, on l'a aussi énormément ouvert aux collectivités, puisqu'on a 4800 gamins qui viennent dans le cadre des scolaires. Et puis, on a petit à petit lié un lien, lié une relation très particulière avec les structures socio-éducatives de Montpellier, des quartiers sensibles de Montpellier, et qui fait qu'on a mis en place une façon pour eux de venir à 2 euros, en fait. Et on a 3800 personnes qui viennent dans le cadre des minima sociaux. Voilà, donc on travaille avec la PAGE, le refuge, toutes les structures socio-éducatives, les écoles de quartier de Gély-Figuerolles, les structures associatives de la Paillade. Et ça donne, ça brasse les gens, ça les oblige à se déplacer. Alors c'est vrai qu'ils viennent plus sur le jeune public qu'en soirée. Et d'ailleurs, c'est très curieux, la fréquentation de la Vista est vraiment le reflet de ce qui se passe au niveau politique et social. C'est-à-dire quand les faits divers dans le Midi Libre sont un peu trop intenses et qui stigmatisent beaucoup le quartier Figuerolles, les gens, en ce moment, par exemple, viennent moins le soir. Qu'ils n'iraient à Boutonnet ou à Plancabane, aux Beaux-Arts, voilà. Donc on a un petit peu de mal, mais c'est par vagues. Il y a des moments de quiétude où les gens reviennent, garent leur voiture, tant bien que mal, ça c'est vrai. Mais là, en ce moment, on est le reflet de ce qui se passe un petit peu sur le plan sociopolitique. Les gens disent « Ah non, on viendrait bien chez vous, mais pas le soir ». Donc garder, maintenir un lieu culturel, une friche culturelle comme la Cour Vergne et un quartier participe à l'intégration de ce quartier, valorise ce quartier et c'est pour ça qu'on le défend bec et ongles.
Je vais me tourner vers Luc maintenant, oui. Puisque le spectacle oui. Cabaret numéro 1, vous faites un prologue tout à fait intéressant au début du spectacle où vous parlez justement de la Vista. La Vista, on vous voit tous les ans et on voit vos spectacles.
Oui, vous avez pas trouvé ça trop long,
Non, moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'était quand même un cri d'amour quand même à la Vista, ce prologue.
Oui, parce que la compagnie Bruit-qui-court, c'est vraiment l'histoire de Bruit-qui-court est liée avec la Vista. Nous avons créé la compagnie avec Estelle, on s'est installé à la Vista parce que la Vista nous a accueillis. Et c'est là qu'ont démarré toutes les créations qui aujourd'hui nous font encore vivre. Et chaque année, on y retourne pour faire des expériences et pour travailler, rencontrer d'autres compagnies. Et donc là, c'est plus maintenant, c'est dans l'affectif. On aime bien ce plateau, on aime bien. Et puis nous, on est à la friche de Mimi, on est juste derrière. Et on essaie de créer un réseau. Avec des compagnies qui arrivent, de se rencontrer, d'échanger. Et c'est ça, ce théâtre est très humain. Voilà, c'est pas difficile d'ouvrir la porte du bureau de Lise, même si elle est souvent en train de travailler et qu'elle est toujours en rendez-vous. Mais il suffit de taper à la porte, de s'asseoir, discuter avec elle, nos projets, tout ça. Et ça se fait comme ça, ça se fait à l'humain. Si tout se passe bien, alors il y a des projets qui se passent très bien, des projets qui peuvent mal se passer, il y a des rencontres qui se passent bien, mais c'est le but du jeu. Et je crois que c'est un lieu très ouvert pour ça, et il ne faut pas hésiter à aller frapper à sa porte, même si elle est très occupée.
Mais oui, c'est vrai que aussi en tant que spectateur, c'est un lieu où on se sent chez soi. On en parlait hier avec Christopher, quand on arrive à la Vista, on se sent un petit peu comme à la maison, on se dit on va passer un bon moment, on va à la Vista.
Oui, c'est une question de confiance, c'est une question... Quand vous faites confiance aux gens, vous décuplez leurs talents. Pour peu qu'ils en aient, c'est magnifique. c'est vrai que nous accueillons 90% de créations, ce qui n'est pas évident parce que c'est une partie de poker à chaque fois. On ne sait pas comment ça va être abouti, mais le public le sait. Il a une certaine tendresse et une certaine compréhension par rapport à ces créations. Il y en a qui viennent voir la première et la dernière pour voir comment ça a évolué. Donc, on a pris... Et c'est vrai qu'une création, c'est toujours un risque, mais il le faut, parce que sinon, comment font les compagnies ? En tout cas, nos compagnies à nous.
Alors, le spectacle Cabaret numéro 1, ça se passe dans une salle d'école. Donc, on va faire une petite pause musicale avec France Gall, Sacré Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne.
obligé d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé,
participe passé.
4 et 4 font 8,
4 et 4 font 8.
Leçon de français,
leçon de français.
De mathématiques,
de mathématiques.
Que de travail,
travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh.
Et oui, sacré Charlemagne sur Divergence FM, c'était France Gall, c'est dans les années 60 qu'elle nous a fait ça. Je rappelle que nous recevons donc Lise Sinou, la directrice de la Vista, et Luc Miglietta de la compagnie Bruit qui court pour le spectacle Cabaret numéro 1. Alors on va revenir un petit peu sur la genèse de ce spectacle, de ce Cabaret numéro 1. On rappelle qu'il y en aura plusieurs autres au fur et à mesure de la saison. Donc c'était... Au départ, c'est une alliance de plusieurs compagnies. Donc, il y a la compagnie Bruit qui court et après, il y a 7 ou 8 autres compagnies.
Oui, voilà. En fait, l'idée avec Lise, on s'est réunis avec quelques compagnies et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire cette année pour marquer un peu le coup et puis pour représenter un peu la Vista dans sa diversité. Et donc, il y a un cabaret qui a été... Quatre cabarets et donc ont été confiés à 4 compagnies différentes. Donc, nous... On est la première compagnie, compagnie Bruit qui court,
l'idée
à qui
de
on
base,
fait très confiance parce que c'est quand même le premier cabaret. C'était
l'inéluctable cabaret.
Et c'est l'inéluctable.
Bien dire inéluctable,
voilà, c'est l'inéluctable cabaret. C'était...
L'idée première est partie du fait que, d'ailleurs, c'est parti d'une réflexion d'Estelle en disant, qui un jour m'a dit oui, on passe à la Vista, puis après on ne se revoit plus pendant toute la saison. Et en fait, les compagnies se suivent, mais ne se rassemblent pas. Voilà. Donc, l'idée était de. Qu'elle se regroupe, je pense qu'il y a plus d'un directeur de théâtre qui rêverait de faire ça, mais que la compagnie arrive à se retrouver, à créer ensemble et créer un lien entre tous ces spectacles. Et surtout, que les gens se rendent compte, c'est parti aussi des Nawalk compagnie qu'organisait Luc.
Nawalk
qui ont
Attitude.
Été, la Nawalk Attitude, qui était une rencontre de clowns. Mmh. Et de ces rencontres sont nés plusieurs spectacles. Donc, rencontrons-nous, renforçons-nous, solidarisons-nous, et voilà.
Oui, oui, en Luc, tout cas, c'était l'idée de... Enfin, en tout cas, chaque cabaret va avoir vraiment une identité précise.
Oui.
Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était surtout montrer la diversité de la Vista et de faire un spectacle fédérateur. Parce que c'est ça, la Vista, c'est ça, la Courvergne. On ne se rend pas compte, ouais. Mais la Courvergne, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui passent à la Courvergne. Il y a beaucoup d'artistes qui y passent, des échanges, de la mutualisation de matériel. Tout le monde est en train de se demander des choses. Et donc, l'idée, c'était de faire ça, et pas simplement d'accueillir des compagnies de la Vista, ou qui ont joué à la Vista, mais aussi d'accueillir des compagnies qui n'y ont jamais joué, qui sont autour, qui ont peut-être franchi la porte une fois de Lise, mais qui sont encore voilà, des petites compagnies, des compagnies émergentes. Et l'idée, c'est des gens que j'ai rencontrés ou que je ne connaissais pas, et que je voulais rassembler dans ce genre de soirée. Et donc, voilà. Donc, 14 saisons, l'idée, 14 artistes sur le plateau, 14 bureaux d'écoliers. On est dans une classe avec des artistes et on essaie de créer un spectacle. Donc, ce n'est pas un spectacle, c'est un cabaret. Donc, c'est éphémère. Ça ne va durer que 4 jours. Et chaque soir sera différent puisque des nouveaux invités vont...
Bref, il faut y aller tous les soirs.
Voilà, c'est un peu la formule. Tous les soirs, oui, tous les soirs.
Christopher, c'était la première fois que tu voyais le travail de Luc.
Oui,
mais c'est vrai qu'hier, il y a des moments où je pleurais de rire.
On a passé un excellent moment. Il y a quelque chose qui a été réussi dans le cabaret d'hier. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. C'est malgré le fait qu'il y ait des petits sketchs hein, au sein de ce cabaret qui sont pas des sketchs qui ont déjà été joués, des personnes qui n'ont jamais joué à la Vista. On avait cet état d'esprit des moments passés à la Vista depuis 14 ans. Moi, j'avais vraiment l'impression hier d'être devant un spectacle qui me rappelait les bons moments, les bons souvenirs de 14 années de la Vista. Et j'avais l'impression qu'au-delà d'un simple spectacle de divertissement, on est quand même sur une sorte d'appel quand même à faire vivre la Vista. Enfin, j'ai l'impression que derrière ce divertissement, ça va beaucoup plus loin, et c'est de nous rappeler cette mémoire, d'aller de l'avant, d'espérer que ça va continuer parce qu'on y a passé beaucoup de moments.
Oui, c'était surtout la volonté de Lise aussi de ne pas s'apitoyer et de pas, voilà, c'était de continuer et d'être dans l'action et dans l'offensive. Et donc c'est un peu ça, cette histoire de cabaret. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, je n'ai fait que mettre en place le cabaret et inviter les gens et imaginer une
scénographie. Ça ne devait pas être facile, parce qu'il y a quand même 7 ou 8 compagnies, il y a 14 personnes tous les
soirs.
Oui,
mais après, chacun est venu avec sa proposition, et ils sont rentrés dans la classe, ils ont amené leur proposition. Juliette Bétavin a mis en chorégraphie la première scène. Voilà, tout le monde a un peu participé. Moi, je n'ai fait que mettre en relief et en scénographie.
Au niveau du calendrier, pour se préparer autant de personnes.
C'est parce que moi, j'ai l'habitude de travailler dans l'urgence, et donc tout le monde était très inquiet. Et on a pu se voir tous ensemble, on va dire qu'une seule après-midi. Après, on a travaillé, voilà, par téléphone, par mail. J'ai récupéré des bureaux. Ça a été le plus difficile, c'était de récupérer les 14 bureaux d'écoliers. Et là, je remercie Valérie Mouly du département de l'Hérault, à qui j'ai donné un coup de fil et qui m'a ouvert évidemment un collège, le collège Lacaze, qui m'a prêté ses bureaux pour cette classe imaginaire.
Oui, d'ailleurs, ces quatre inéluctables cabarets sont le reflet de la programmation de cette année. C'est-à-dire qu'on a voulu, moi je l'ai confié aux compagnies, comme je confie ces cabarets à quatre compagnies porteuses du projet. Et je voulais que cette année, on soit tous autour de ce lieu et que cette programmation soit le reflet de ce qui s'est passé pendant 14 ans, effectivement. Donc on y retrouve dans particulier, ce sont les compagnies qui ont constitué la programmation. Et on y retrouve, ce n'est pas un hasard, les compagnies qui ont l'habitude de ce lieu, qui l'ont honoré, qui ont souvent vu le jour grâce à la Vista, mais aussi qui en ont apprécié l'esprit et qui ont fait sien, qui se sont appropriés ce lieu et qui l'ont redonné avec beaucoup de générosité dans leur proposition théâtrale. Voilà, donc...
Mais pas que.
Et comme chaque année, d'ailleurs vous le verrez sur la programmation, il y a quelques compagnies nouvelles que nous accueillons à bras ouverts, comme Luc hier a accueilli les compagnies qui n'avaient pas joué à la Vista.
Voilà, et notamment la Nivatiep Compagnie qui est là aujourd'hui. Voilà.
Alors je sais aussi qu'il y a un spectacle pour enfants qui est fait par la compagnie Bruit qui court ces temps-ci. Marie, tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, les Augustes Blancs. Donc vous n'avez plus que demain pour aller les voir.
Et oui.
Demain à 16h, c'est magnifique, c'est drôle. Alors c'est un spectacle jeune public, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde peut y aller. J'ai vu des adultes y aller seuls. Comme tous les spectacles de la Vista jeune public, en réalité ce sont des spectacles tout public qui sont adressés avec toujours plusieurs niveaux de compréhension, de lecture, etc. Donc c'est un hommage à l'univers du cirque, des clowns. C'est un voyage dans le temps, dans l'espace. À une époque où le cirque faisait partie intégrante d'une culture vivante et populaire. Et vraiment, c'est très drôle. Mais c'est un spectacle qui tourne déjà depuis un moment, non ?
C'est un spectacle qui a été créé il y a 8 ans au Théâtre de la Vista et qui tourne. L'idée, c'était Estelle qui avait très envie de le rejouer à la Vista. C'était un peu on a fait la boucle et on voulait présenter ce spectacle qu'on n'avait pas joué depuis 8 ans au Théâtre de la Vista, en parallèle avec le cabaret.
Et d'ailleurs, un fait important, c'est que la Vista a petit à petit effacé la barrière qu'il y a entre le jeune public et le tout public. Mmh. Et ça, on le constate depuis 2-3 ans. Le soir, il y a des ados qui viennent. Des ados ou des gamins à partir de 10 ans. Et comme je fais les billetteries le soir, à chaque fois que je vois un ado, c'est tellement rare de voir un ado dans un théâtre. Je lui demande, mais comment ça se fait que tu sois là? Et il me répond, généralement, c'est le théâtre de mon enfance. Ça fait 14 ans que la Vista existe. Et les enfants n'ont pas laissé ce creux, ce vide sidéral qu'il y a entre le moment où ils ne veulent plus aller au théâtre et le moment où ils vont y retourner. Et on les voit avec les parents, et ils ne font même pas la tête. Le soir, grâce à la proposition artistique qui n'est pas sectaire, qui n'est pas bridé. Et puis, grâce au fait qu'ils ont été initiés depuis qu'ils sont petits au spectacle et qu'ils ont envie de continuer à y aller. Donc ça, je suis très fière de ça.
Et justement, je profite que je vous ai sous mes yeux et sous mes oreilles.
Ah, une critique.
Non, concernant la programmation jeune public de cette année, donc on va retrouver des compagnies qu'on a l'habitude de voir au Théâtre de la Vista, comme la compagnie du Bruycourt, mais aussi la compagnie Amarante, la compagnie Alfred de Neuch. Est-ce qu'il y a des nouvelles compagnies qu'on va découvrir cette année, des spectacles qui ont été créés à la Vista cette année?
En nouvelles compagnies, il y en a deux, en fait. Il y a la compagnie... Je les cherche pour bien vous donner les... Bon, il y a les petits bobos, mais ça, c'est Alfred de la Neuch, vous la connaissez déjà. Le cabaret, voilà, je le cherchais. En plus, ils viennent plusieurs fois. Cette année, ils viennent trois fois. Il y a le collectif IIIF. C'est une compagnie de clowns, nouvelle sur Montpellier. Luc,
oui,
tu connais mieux que moi, peut-être.
Oui, on a travaillé avec eux à Aurillac cette année. Ils sont issus de l'école de clowns du Samovar à Paris. Et voilà, c'est des gens très, très engagés dans le clown. Ils sont très, 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 très sympas.
Oui. Et la compagnie Prune aussi, qui va faire au mois d'avril à Livre Ouvert. C'est une compagnie de cirque qui mélange le texte et le cirque, qui va vous proposer un petit conte acrobatique. Voilà, là, ce sont les deux nouvelles compagnies. Et les autres, effectivement, je relis le programme, là, ce ne sont que des compagnies habituelles, mais c'est une volonté, cette année, hein, de les regrouper.
Alors, je m'aperçois que le temps tourne. Les prochains spectacles qu'on va recevoir à Vendredi Théâtre, il y aura De l'usage des bottines qu'on reçoit la semaine prochaine si je ne me trompe pas, il y a le Thanatologue qu'on va recevoir aussi, on va recevoir tous les spectacles je pense de la Vista. Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau de Vendredi Théâtre. Vous savez que vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Et c'est toujours avec grand plaisir que nous on va à la Vista. Je pense que ni Marie ni Christopher ne me contrediront. Alors, il y a un passage dans le spectacle, moi, qui m'a fait hurler de rire. C'est le passage où, il y a un moment, on entend Johnny Hallyday brailler sur la 7e symphonie de Beethoven. La massacrée, d'ailleurs, mais c'est absolument hilarant. Je pleurais de rire.
Moi aussi.
Et donc, on va se quitter avec cet allegretto de la 7e symphonie de Beethoven. C'est le deuxième mouvement. Et on va se quitter avec une version de Georges Zell, avec l'orchestre de Cleveland, une version de 1959. Beethoven, deuxième mouvement. Vendredi Théâtre, c'est terminé pour cette semaine. Je remercie Gilles à la technique, je remercie les invités, je remercie les animateurs, et puis à la semaine prochaine.